Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est aujourd'hui le sommet Action Climat aux Nations Unies. Si la réalité du changement climatique est scientifiquement prouvée, ses conséquences plus ou moins inéluctables à moyen et long terme entre révolution ou simple adaptation font encore débat. Depuis quelques années, on peut lire ou entendre des prédictions absolument sinistres comme la fin de la civilisation, voire la fin partielle ou totale de l'humanité à un horizon bien inférieur à une vie humaine. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus écoutés d'ailleurs, ceux que l'on appelle et qui s'appellent eux-mêmes les collapsologues. Faut-il croire aux théories de l'effondrement ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Isabelle Delannoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dirigeante fondatrice de Do Green, autrice de L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société, c'est aux éditions Actes Sud, et signataire de la tribune Écologie, Climat, l'effondrement n'est pas inéluctable, paru dans Le Monde, le quotidien français, le 17 août. Et François-Marie Bréon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, l'un des laboratoires de l'Institut Pierre-Simon. La place. Alors 2050, voire 2030, en fait c'est presque juste le temps de se dire au revoir, hein. C'est à cet horizon que certains collapsologues prédisent la fin de la civilisation telle qu'on la connaît, voire carrément l'extinction de l'humanité. C'est un peu effrayant, même pour les plus flegmatiques d'entre nous. Est-ce que c'est possible, Isabelle Delannoy ?
L'extinction de l'humanité, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit les écosystèmes vivants s'effondrer, qui sont à l'origine des équilibres écologiques de la planète, et notamment climatiques, et donc de la fertilité des sols, de tout ce dont on dépend, en réalité. Et donc, quand on regarde, bon, je pense au papier qu'avait produit Jean Jouzel, l'ancien président du groupe international pour le climat, il y a 2 ans, l'air des 15 000 scientifiques il y a très peu de temps.
Les alertes du GIEC qui se succèdent, oui, absolument.
Qui donnent quand même 2020 pour changer structurellement notre façon de produire et d'échanger.
François-Marie Bréon, est-ce que ça paraît étonnant quand on voit ça de l'extérieur que là, comme ça, à très court terme, 10 ans ou 30 ans, ça puisse arriver, la fin de la civilisation, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, enfin bon, pour ce qui est de l'extinction de l'espèce humaine, personnellement, je n'y crois pas une seconde. La fin de la civilisation, ça dépend un petit peu comment on la définit exactement. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que il y a un certain nombre de pays qui ont des ressources pour s'adapter au changement climatique, même si je suis pas du tout en train de dire que ça va être une partie de plaisir. Je suis bien persuadé que les conséquences du changement climatique vont être vraiment très très importantes. Mais il y a un certain nombre de pays qui ont les ressources pour s'adapter. Et puis, par contre, il y a des pays qui sont beaucoup plus vulnérables. Ce qui est vraiment complètement injuste, c'est que finalement, les pays qui contribuent le plus au changement climatique sont les pays qui ont les ressources pour s'adapter le plus facilement. Et ceux qui vont subir le plus et qui, là, pour le coup, je crois que c'est possible qu'il y ait vraiment une fin de civilisation dans certaines régions du globe. Et donc, ces pays-là sont ceux qui contribuent finalement assez peu au réchauffement climatique par leurs émissions.
Isabelle Delannoy, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Il y a une inégalité, une injustice face au changement climatique ? Il y a des pays qui en profitent presque, carrément.
En tout cas, il y a une grande injustice face au changement climatique. Faut pas imaginer que l'effondrement, ça va être le grand soir. C'est quelque chose qui est progressif et qu'on vit, en fait, déjà. Hein.
Ça a commencé pour vous.
Quand on voit l'augmentation du nombre de migrants, des migrations climatiques, de la diminution de productivité des sols. Oui, bien sûr. Quand on voit aussi la fluctuation du cours des matières premières qui est dépendant de n'importe quel, aujourd'hui, de n'importe quel aléa. Aujourd'hui, on a très peu de tampons, si vous voulez. Donc, à chaque fois qu'on a un aléa, qu'il soit politique, géopolitique, climatique, il va influer sur le cours des matières premières, y compris agricoles. Et de façon, donc, on a des secousses. On a des secousses de plus en plus rapides, de plus en plus amples. Et en effet, on a des zones dans le globe où, notamment en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Amérique du Sud, où il est prévu 200 jours par an létaux pour les conditions de vie humaine avant 2100. Donc 200 jours par an, c'est 20 jours en moyenne sur la planète, 200 jours par an dans certaines zones du globe, elles vont devenir complètement inhabitables si nous ne réagissons pas.
François-Marie Bréon, ces proportions que ça pourrait prendre, ça vous étonne ou pas?
Ah non, enfin ça m'étonne pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de dire, dans ce sens qu'il y a certaines parties du monde qui va être vraiment difficile à vivre, mais comme il en existe déjà, hein, il faut bien voir qu'il y a déjà des parties du monde. Mais donc la surface qui va être concernée va être de beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Maintenant pour ce qui est des signes de l'effondrement qui arrive, là je pense que quand même il y a plutôt moins de famines aujourd'hui qu'il y en avait il y a une trentaine d'années quand même, hein, et puis les fluctuations certain nombre de choses. Enfin, il n'y a pas que du négatif dans le monde aujourd'hui, quand même. L'espérance de vie est nettement plus haute dans un certain nombre d'endroits qu'elle est il y a 30 ans.
Un certain nombre d'objectifs du millénaire de les Nations Unies ont été remplis aussi
En termes de lutte contre la pauvreté, par exemple. Mon interlocutrice qui secoue la tête, elle est probablement plus au courant que moi sur ces objectifs-là. Donc on va lui faire confiance, on va dire qu'elle a raison d'accord. et que donc non. Mais voilà, moi j'ai quand même encore de l'espoir et moi je fais pas partie des collapsologues. Voilà, oui. C'est ça. Je ne me mets pas là-dedans. Moi j'ai encore confiance sur le fait que l'humanité peut réagir et même si je suis bien persuadé que le réchauffement climatique il va arriver, il va être beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Je suis bien persuadé que ça va être extrêmement désagréable, mais je me mets plutôt dans une perspective où il n'y aura pas de collapse et on sera d'une certaine manière s'adapter à ça. Et j'espère avoir raison, je n'en suis pas certain.
Isabelle Delannoy, est-ce que c'est inéluctable ou est-ce que c'est pas finalement l'histoire de l'humanité de s'adapter à de nouvelles conditions ?
Alors, pour moi, ce n'est pas inéluctable. En effet, je suis complètement d'accord avec mon interlocuteur aussi. C'est-à-dire que nous pouvons réagir. Il faut réagir maintenant. Ça, on a des seuils de à cause de l'accumulation en fait du carbone dans l'atmosphère qui fait que on a des temps de même si on parle des conséquences à 2030, 2050 qui sont demain, mais qui en fait dépendent de notre réaction d'aujourd'hui. Et en effet, on peut tout à fait réagir. Moi, je parle de double lucidité, devant l'effondrement possible et qui est en cours, hein, on le voit avec les effondrements de la biodiversité, on le voit aussi avec les écarts de pauvreté et de richesse qui s'accentuent. Mais on a développé un nombre de solutions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient dans notre rapport au vivant, qui sont absolument immenses, qui sont complètement cohérentes, qui font une économie entière. Ce qu'on appelle le mouvement de l'économie régénérative aux États-Unis, on a une convergence de de nombreux économistes aujourd'hui qui parlent d'économie permacirculaire, régénérative, symbiotique comme moi, vers ça. Et comme quoi, oui, en effet, on peut réagir et en plus avec une économie bien plus plaisante qu'aujourd'hui.
François-Marie Bréon, c'est le fait qu'il existe des solutions qui peut-être demande à être développé, qui vous oriente, qui vous incite à ce non-pessimisme que vous évoquiez.
Mon non-pessimisme, il y a deux choses. D'une part, j'observe que l'humain arrive à s'adapter, arrive à vivre dans des pays aussi hostiles que le Sahara d'un côté et le Groenland que d'autres. Il y a quand même des civilisations qui sont là. Donc, ça montre bien la capacité de l'adaptation de l'humain. Peut-être que, par contre, ce qui me rendrait pessimiste, c'est que la capacité de l'adaptation, c'est sur des petites populations. Et ça s'applique pas nécessairement à 7 milliards voire 10 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y aura tout un tas d'endroits fort agréables à vivre pour quelques centaines de millions de personnes, mais peut-être pas pour 7 milliards d'individus. Et donc voilà, je vous ai dit, cette capacité d'adaptation me rend un peu optimiste. Et à vrai dire, moi, s'il y a un risque de collapse de la civilisation, je le vois plutôt sur la nécessaire fin de l'utilisation des combustibles fossiles. C'est-à-dire que notre civilisation aujourd'hui, elle est tellement dépendante du pétrole et des autres combustibles fossiles. Or, on sait bien qu'il va falloir s'en passer. Et je suis pas certain que nos civilisations soient capables de se passer de ces combustibles. Donc finalement, plus que le réchauffement climatique, que le changement climatique, c'est plutôt cette nécessaire fin du pétrole qui me fait craindre à la fin de la civilisation.
Moi, ça me fait penser ça m'amène une image en tête, ce dont vous me parlez, François-Marie Bréon. Est-ce qu'on va arriver à plus ou moins brève échéance dans un monde à la Mad Max? Parce que c'est ça, quoi. C'est ce qui est en train de nous être dit, Isabelle Delannoy.
Alors, on a une grande imagination pour imaginer le pire. Hein. Ouais. Malheureusement, on a du mal à faire des récits pour le meilleur. Mais quand on regarde, on a de très très belles initiatives qui partent toutes du local et qui recréent du lien social, qui recréent de l'emploi et qui en plus recréent des paysages et des écosystèmes vivants qui vont réguler non seulement localement, le climat, les hausses de température, les vents, la rétention de l'eau dans les sols, mais aussi globalement, parce que ce sont ces mêmes services rendus par les écosystèmes qui sont à la base des équilibres planétaires. Par exemple, vous avez Monsanto partout, dans le sud de la France, qui a créé une régie alimentaire. C'est-à-dire que la collectivité a réservé des terres pour l'agriculture, qui est conduite en permaculture. La permaculture est une technique qui permet d'intensifier, en fait, les mécanismes écologiques naturels et d'être extrêmement productive tout en faisant un retour à la biodiversité domestique comme sauvage, parce qu'elle fait des îlots, et en retenant mieux les sols, en retenant mieux les eaux, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des emplois agricoles. La 100% des cantines, qu'elles soient pour les personnes âgées ou pour les enfants, sont alimentées en bio. 85% de la population a changé son mode d'alimentation parce que du coup, ils disposent aussi d'une offre locale. Et ça ramène et du lien social, et de la beauté, et de l'emploi, et une nourriture cueillie à point et de qualité et riche en nutriments.
François-Marie Bréon, est-ce que ça...
On est loin de Mad Max.
Oui, c'est assez sympathique à entendre, mais je reviens à ce que vous disiez. 7 milliards d'humains, peut-être 10, est-ce qu'ils peuvent vivre comme ça? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce que c'est ça la question?
J'ai peur que ce soit au-delà de mon domaine de compétences, et donc j'aurais peur de dire une bêtise là-dessus. Voilà. Donc j'en sais rien. Je l'espère. Quand je vois quand même tous les gens qui vivent dans les villes, il faut pas oublier qu'il y a 3/4 de la population qui vivent dans les villes, et donc il faut bien qu'aujourd'hui ces gens-là, ils sont nourris par 5, enfin en tout cas en France, par 5% de la population arrive à nourrir les 95% d'autres. Donc ça va demander une transformation de la société qui est vraiment considérable, en fait. Hein. Mmh. Donc peut-être que c'est possible. On nous dit que ça rend plein de gens heureux, je veux bien l'entendre, mais c'est vrai que ça va pas être facile à mettre en œuvre.
Est-ce que le grand mérite de ces théories du collapse, de l'effondrement, Isabelle Delannoy, c'est pas surtout d'alerter, en fait, hein, de donner l'alerte aux gens pour que les dirigeants réagissent,
oui,
prennent des solutions?
Les dirigeants nationaux comme locaux. J'aimerais parler du rapport Meadows en 1972, qui...
Dites-nous de quoi il s'agit, oui.
Qui a été traduit par Halte à la croissance en français, mais donc qui avait été écrit par Doris et Denise Meadows et d'autres chercheurs, qui a été d'ailleurs le premier rapport, un des premiers rapports sur la méthodologie systémique, c'est-à-dire où on arrive à combiner un tas de facteurs. Eh bien, avec l'économie que nous avons actuellement, 72, donc plus de 40 ans après, leur projection se révèle vraie à moins de 5% d'erreur. Et on a une convergence des crises, selon ce rapport, vers 2025. C'est exactement ce qui est en train de se prédire aussi aujourd'hui. Néanmoins, on est toujours dans cette vision de cette économie où on doit prélever absolument, ou comme si on était une espèce
priorité
maudite.
Priorité à la croissance, quoi.
Pas seulement priorité à la croissance. Une espèce maudite où, de toute façon, pour pouvoir nous développer, on doit prélever sur la terre. Mmh. Or, ce qui se passe, et c'est ce que disent les économies régénératives, permacirculaires, symbiotiques, etc., c'est que on peut être co-créateurs, nous aussi, comme toutes les autres espèces vivantes, des équilibres planétaires. Ce que fait Monsanto Sarto, c'est exactement ça. Il y a eu un rapport au début des années 2000 sur votre question. Est-ce qu'on peut nourrir toute la planète avec ces techniques? On aurait 70% de productivité alimentaire en plus. Parce que on régule des climats qui font que, et sont moins sensibles aux ravageurs, il y a besoin de moins d'eau, etc. L'eau se retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les sols. Donc ce problème-là, non. Plus on écologise en fait nos pratiques, plus on est productif.
Fonction d'alerte de ces théories, François-Marie Bréon, est-ce que vous pensez que ça peut être utile quelque part pour provoquer la réaction?
C'est potentiellement utile. D'abord, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas collapsologue. Je ne me mets pas dans cette perspective, mais je pense qu'il y a suffisamment de choses qui sont graves, qui vont se passer, même sans avoir ce collapse, pour agir en fait. Et à l'inverse, je vois un petit peu sur les réseaux sociaux aussi des gens qui rejettent toute idée de lutter contre le changement climatique, justement parce que en disant mais qu'est-ce que c'est que ces collapsologues, il n'est pas question de faire quelque chose. Donc c'est aussi un peu à double tranchant en fait, oui. Hein, qu'il y ait un rejet de cette, parce que je dis mais ça c'est pas scientifique, on peut pas y croire, et donc je rejette tout d'un coup.
Ou alors il y a une autre solution, et j'allais y venir, Isabelle Delannoy, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que des gens se disent bon c'est foutu, alors foutu pour foutu, on continue comme ça jusqu'au mur?
Oui, il peut y avoir toutes les réactions. Tout à fait. Et puis il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le survivalisme qui s'isole dans les campagnes. Mais si on n'arrive pas à donner des bonnes conditions de vie à toute la population, alors ils seront isolés avec des armes pour défendre leurs terres. Si jamais vraiment on a des problèmes d'alimentation, si vous voulez. Donc ça pose des vraies questions. Moi, je pense qu'il ne faut pas les éluder. Par contre, ce que j'observe dans cette double lucidité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que, en fait, beaucoup de personnes sont dans le déni ou dans la colère parce qu'ils ne voient pas les solutions possibles, la sortie possible. Or, il y en a. Il faut des investissements massifs, financiers, industriels, politiques, économiques, mais c'est possible.
Est-ce qu'il faut repenser nos modes d'organisation, donc économique, ça vous l'avez dit, social, mais aussi politique? Est-ce que il faut pas être un petit peu plus directif que démocrate pour imposer ces solutions? Qu'est-ce que vous en pensez, François-Marie?
Alors j'avais répondu à une interview dans Libération qui m'avait pas valu pas mal de critiques. Les gens disaient François-Marie Bréon, ça y est, il fait un appel à la dictature, parce que à l'époque j'avais dit un truc du style j'ai peur que les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique ne soient pas compatibles avec une démocratie.
Donc je vous pose une vraie question. Alors puisque vous voulez poser
aussi. Effectivement, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une démocratie, s'il y a deux partis qui arrivent, l'un en disant bon bah allez continuons de la même manière, vous pouvez continuer à partir en vacances, avoir des grosses voitures et tout, puis l'autre qui vous dit bah non, maintenant ce qu'il va falloir c'est se serrer de la ceinture, eh ben j'ai peur que celui qui sera élu, effectivement, ça sera le premier. D'ailleurs, lorsque Emmanuel Macron avait voulu augmenter la taxe sur les produits pétroliers l'année dernière, ça avait déclenché le mouvement des gilets jaunes. Or, cette augmentation du prix de l'essence est une des mesures qu'il faudrait prendre. Et on voit bien que ce type de mesure est profondément impopulaire. Donc effectivement, peut-être qu'il y aurait moyen d'arriver à vendre ça comme étant une sobriété heureuse. Mais je pense que c'est pas facile quand même de faire comprendre aux gens que ne pas aller à l'autre bout du monde en vacances, c'est vachement mieux que c'est beaucoup plus agréable d'aller en vacances dans le Berry que à l'autre bout du monde dans les Antilles.
Isabelle Delannoy, il vous reste quelques secondes sur ce côté un peu, est-ce qu'il faut l'imposer ou pas, quoi?
Mais en fait, la dictature, elle vient rarement des classes les plus nombreuses. Elle vient souvent des plus puissants. Or, ce qui se passe, c'est qu'on observe une incompréhension et une inculture des mécanismes climatiques chez les élites politiques nationales et internationales, alors qu'elle est bien plus forte dans la population.
Merci Isabelle Delannoy, merci François-Marie Bréon d'avoir participé à cette émission qui effectivement est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur rfi.fr, participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.